Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Chers frères et sœurs, pour la troisième fois de suite, nous entendons un extrait du Sermon sur la montagne, la première prédication de Jésus, celle qu'il a commencée avec la proclamation des 9 béatitudes que nous avons entendues il y a 2 semaines. Par cette proclamation, Jésus nous faisait deviner un bonheur qui n'est ni le fruit de nos efforts, ni ne dépend des richesses et des succès de ce monde. Bienheureux les pauvres, les miséricordieux, bienheureux les cœurs purs, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais de quelle justice est-il question? Rappelons encore cette autre parole très lumineuse qui suit directement les béatitudes et que nous avons entendue dimanche passé. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Jésus a-t-il peut-être voulu nous rendre attentifs à cette semence de grande valeur qui commence à germer en nous-mêmes dès que nous nous ouvrons pour l'accueillir? Je veux dire cette semence divine qui est la parole annoncée par Jésus lui-même et déposée dans notre cœur dès que nous tendons l'oreille de notre cœur vers cette parole. Une semence qui pourra devenir en nous source de lumière, source d'un regard nouveau, d'une écoute nouvelle, source d'attitude nouvelle, d'attitude libératrice. Or, écouter et accueillir la parole de Jésus, n'est-ce pas accueillir du même coup celui qui est lui-même le plus attentif auditeur des Saintes Écritures, auditeur écoutant avec des oreilles très fines la loi donnée à Moïse sur le Sinaï? Dès lors, accueillir la parole de Jésus, n'est-ce pas accueillir celui qui, en méditant les Saintes Écritures de son peuple, sait y discerner, comme nul autre, la voix du Père, la silencieuse voix de son bon plaisir, de ce qui fait la joie de son et notre Père? De fait, Jésus n'est-il pas entièrement désir d'accomplir le désir du Père? Ce désir qui est comme assoiffé de notre vrai et éternel bonheur, assoiffé de nous délivrer de l'enfermement dans de faux désirs, dans de faux bonheurs, dans des joies apparentes. Dès lors, Jésus amène une révolution sur terre, une révolution toute divine. S'il se réfère si fidèlement, tous les évangélistes l'attestent, aux Saintes Écritures, ce n'est pas pour en faire une sorte de système de défense et de permission, permettant à la limite de s'arranger toujours, même d'exercer une sorte de tyrannie apparemment spirituelle sur autrui. Tout au contraire, Jésus se sait envoyé pour accomplir, mener à la plénitude, l'enseignement confié au peuple élu, l'accomplir entièrement, c'est-à-dire révéler son vrai sens pour nous aider à en vivre en nous laissant ajuster à la parole divine. De fait, Jésus, par son enseignement, ne désire-t-il pas ardemment nous embarquer dans sa révolution divine? N'est-ce pas pour cela qu'il commence, justement avec les passages entendus tout à l'heure, par nous mettre en garde contre ceux que je nommerais volontiers la logique du vieil Adam, cette logique qui tend à se servir des autres, même de se servir des saintes écritures, pour ne pas se mettre au service des autres. Le Christ Jésus nous demande, avec une rare insistance et en utilisant des images bien vigoureuses, de nous laisser affranchir d'une logique égocentrique qui finit toujours par étouffer le cœur et de rendre incapable d'entrer dans des relations humaines dignes de ce nom, des relations faites de confiance, de respect, d'estime mutuelle, de promptitude à l'entraide sans arrière-pensée. Voilà la justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, la justice nouvelle que Jésus voudrait nous faire nôtre. De fait, n'est-ce pas cette justice-là dont le cœur du Christ lui-même est habité entièrement? Cette justice qu'il voudrait faire prendre racine et faire grandir dans notre propre cœur, pour que notre vie en soit transformée, illuminée. Une justice que l'Esprit Saint voudrait faire germer en ce point le plus intime de nous-mêmes où, d'une certaine façon, tout commence. Ce point le plus caché en nous où se décide si nous cédons ou non à la colère, à la cupidité, à la convoitise, à l'instrumentalisation d'autrui, etc. C'est là, au plus profond de notre cœur, que la parole divine se tient déjà prête pour nous seconder, afin que nous nous décidions pour faire vivre la vie en nous-mêmes et dans les autres. C'est là, dans notre cœur, plus intime de nous-mêmes, que nous nous décidons pour cette sagesse qui fera de notre existence une bénédiction, une aide, un soutien pour les frères et sœurs. Prions donc avec ferveur et confiance que nous tous nous devenions des porteurs de cette bénédiction.